Merci à tous d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. 13h en temps universel, il est 15h ici à Paris.
RFI Midi.
Suite et fin de votre rendez-vous d'information de la mi-journée, nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Pour parler d'Haïti, qui attend les premiers policiers kényans, ils ont quitté Nairobi hier après une cérémonie en présence du président William Ruto, vous l'entendrez. On y reviendra longuement avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Presse. Et puis l'actualité des Outre-mer comme chaque jour, avec vous Serge Massot, les sargasses sont de retour sur les côtes de la Guadeloupe.
Risque fort d'échouement dans les prochains jours et on relève des taux élevés de sulfure d'hydrogène par endroit.
A tout à l'heure, on vous appelle dans une vingtaine de minutes et tout de suite on va faire le point sur l'actualité internationale. L'essentiel avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour à tous.
Pour Julian Assange, c'est donc la fin d'un long feuilleton judiciaire.
Oui, il sera un homme libre après son audience devant un tribunal américain, assure l'épouse de Julian Assange. L'Australien de 52 ans, fondateur de Wikileaks, a maintenant quitté le Royaume-Uni et la prison de haute sécurité où il sera resté 5 ans. Il doit maintenant comparaître devant la justice américaine. Il plaidera coupable au terme d'un accord qui lui permettra de recouvrer la liberté. Rappelons qu'il est poursuivi pour avoir publié des centaines de milliers de documents, des documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Tout de suite, la réaction du Premier ministre australien Anthony Albanese. Il souhaite le retour dans son pays du célèbre lanceur d'alerte.
Le gouvernement est tout à fait conscient que M. Julian Assange, citoyen australien, fait l'objet d'une procédure judiciaire aux États-Unis. Bien qu'il s'agisse d'un développement positif, nous reconnaissons que ces procédures sont importantes et délicates. J'ai été très clair, à la fois en tant que leader travailliste dans l'opposition et en tant que Premier ministre, sur le fait qu'indépendamment des opinions que l'on peut avoir sur les activités de M. Assange, l'affaire a duré trop longtemps. Il n'y a rien à gagner à ce qu'il reste incarcéré et nous voulons qu'il rentre en Australie.
Julian Assange a donc conclu un accord de plaidé coupable avec la justice américaine, synonyme de liberté. L'audience est prévue demain devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain dans le Pacifique. Le lanceur d'alerte devrait se voir infliger une peine d'emprisonnement de 5 ans et 2 mois, peine qu'il a déjà purgée en Angleterre. Il serait donc libre une fois l'accord validé par le juge et pourrait rejoindre son Australie natale. Antoine Gallen, bonjour.
Bonjour.
En quoi consiste, Antoine, cette procédure américaine de plaider coupable?
Et bien concrètement, c'est un accord entre le procureur et l'avocat qui débouche sur une peine moins lourde. L'objectif de l'équipe de Julian Assange était clair, éviter à tout prix d'être livré à la justice américaine où il encourait une condamnation à 175 ans d'emprisonnement en vertu de la loi sur l'espionnage. Alors pour y échapper, le lanceur d'alerte a accepté de reconnaître sa participation, je cite, à un complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale, soit un seul chef d'accusation selon les documents judiciaires rendus publics au lieu des 18 dont il faisait l'objet. Les appels s'étaient multipliés au président des États-Unis pour qu'il abandonne les charges retenues contre le fondateur de Wikileaks. L'Australie avait présenté une demande officielle en ce sens en février que Joe Biden avait dit examiner, ce qui avait suscité l'espoir des soutiens de Julian Assange.
Merci pour ces explications Antoine, c'était Antoine Gallen. La Cour pénale internationale annonce qu'elle a émis des mandats d'arrêt contre le chef d'état-major russe Valéry Gerasimov et l'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Tous deux sont poursuivis pour crimes de guerre, par exemple en ayant dirigé des attaques contre des biens civils. La Russie juge insignifiant le mandat d'arrêt lancé contre son ex-ministre de la Défense. A l'inverse, la présidence ukrainienne salue, je cite, une décision importante de la CPI. La même présidence ukrainienne salue aussi le lancement officiel des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Une journée historique selon elle. Aujourd'hui à Luxembourg, l'UE lance avec l'Ukraine et avec la Moldavie des négociations censées permettre à ces deux pays d'être un jour membres à part entière de l'Union. Et puis à propos de l'Union, on vient de l'apprendre de bonnes sources. Un accord est intervenu entre partis politiques sur la répartition des principaux postes. Ursula von der Leyen va obtenir un nouveau mandat comme présidente de la Commission. L'ancien Premier ministre portugais Antonio Costa, lui, va devenir président du Conseil. Quant à la Première ministre estonienne Kaja Kallas, elle obtient le poste de représentante pour les affaires étrangères.
La direction Hong Kong à présent, où se tient un procès très important contre le camp pro-démocratie.
Oui, il est même considéré comme le plus important, avec pas moins de 47 leaders et militants sur le banc des accusés. Parmi eux, Benny Tai, une figure de proue de ce mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Il est accusé de subversion. Son avocat a demandé au tribunal d'accorder à son client 2 ans de prison, ce qui lui permettrait en théorie d'être libéré immédiatement. Hypothèse peu probable, Yelena Tomic.
Et oui Gilles, en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong, c'était il y a 4 ans, pour réprimer toute dissidence après les gigantesques manifestations en faveur de la démocratie, eh bien Benny Tai, 59 ans, est considéré par les autorités comme le cerveau et l'instigateur des contestations de 2019 et encourt la réclusion à perpétuité. Son avocat tente le tout pour le tout et il a demandé aujourd'hui à la cour d'accorder à Tai et à 4 autres accusés 2 ans de prison, ce qui signifierait, vous l'avez dit, une libération immédiate puisque l'universitaire est détenu depuis mars 2021. Signe que cet allègement de peine a peu de chances d'aboutir. Un article publié la semaine dernière sur la plateforme des réseaux sociaux du ministère de la Sécurité nationale et dans lequel Pékin accuse Tai d'être le principal coupable tout en l'avertissant qu'il serait sévèrement puni par la loi. Par ailleurs, les 3 juges de la haute cour, triés sur le volet par le gouvernement pour statuer sur cette affaire, ont estimé le mois dernier que Tai avait mis au point, je cite, une arme constitutionnelle de destruction massive afin de déstabiliser le système politique existant.
Yelena Tomic en direct dans ce journal, merci à vous. En France, la campagne des législatives anticipée à 5 jours du premier tour. La chaîne TF1 organise ce soir le premier débat télévisé en présence des représentants des 3 grands blocs. Gabriel Attal pour la majorité présidentielle, Jordan Bardella pour l'extrême droite, Emmanuel Bompard pour l'alliance des gauches et des écologistes. C'est a priori Jordan Bardella qui a le plus à perdre ce soir. Après son succès aux européennes, le RN domine les sondages. D'âge de premier tour avec au moins 35% des intentions de vote.
Dans l'actualité économique, Airbus qui connaît à son tour des difficultés.
Oui, ce matin en bourse, le titre de l'avionneur européen chutait de plus de 10%. Nathanaël Vitran du service économique, bonjour.
Bonjour Gilles.
L'explication Nathanaël, eh bien, c'est que les marchés s'inquiètent des difficultés d'Airbus à livrer les avions promis.
Eh bien oui, Airbus avait annoncé qu'il livrerait 800 avions cette année, mais l'entreprise vient de revoir ce chiffre à la baisse. Airbus ne pourra finalement mettre sur le marché que 770 avions en 2024. Quand on sait qu'un avion Airbus coûte entre 70 et 350 millions de dollars, c'est une différence qui compte. Surtout que les compagnies aériennes ne payent que au moment de la livraison. Airbus est victime de son succès. L'avionneur a enregistré plus de 2000 commandes en 2023, 600 de plus que lors de son précédent record de 2013 et 700 de plus que Boeing, son principal concurrent américain. Mais voilà, la chaîne d'approvisionnement n'arrive pas à suivre. Pour construire ces avions, Airbus s'appuie sur plus de 3000 fournisseurs, autant de goulots d'étranglement possible. Pour ne rien arranger, la branche spatiale de l'avionneur connaît aussi des difficultés, le tout ayant forcé l'entreprise à revoir à la baisse ses perspectives financières, d'où cette punition des marchés. À relativiser toutefois, le cours d'Airbus reste supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en novembre dernier.
Merci Nathanaël. Violence et confusion actuellement au Kenya où une manifestation de la jeunesse contre la vie chère a sombré dans le chaos. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles selon l'opposition. Celle-ci fait état d'un manifestant tué, mais des journalistes de l'AFP ont vu au moins 3 corps inanimés aux abords du Parlement. Le Parlement dans l'enceinte duquel sont entrés des manifestants. Un tout dernier mot de football, on vient de l'apprendre avant le match France-Pologne dans le cadre de l'Euro ce soir à Dortmund. Eh bien, on apprend que Kylian Mbappé est de retour chez les Bleus comme titulaire, donc contre la Pologne.
Merci Gilles Moreau. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un prochain journal. Et nous parlons de l'actualité du continent américain et d'Haïti, surtout durant les 20 prochaines minutes.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti qui attend les premiers policiers kényans. Enfin, les premiers membres de la mission multinationale arrivent. Ils ont quitté Nairobi hier après une cérémonie officielle au cours de laquelle le président Ruto leur a rendu visite et a tenu à marquer la solennité du moment.
As a nation, our commitment to fundamental values knows no borders.
En tant que nation, notre engagement en faveur des valeurs fondamentales ne connaît pas de frontières. Et nous sommes appelés à étendre la portée de la paix dans le cadre de notre obligation morale panafricaine, multilatérale et humanitaire, en tant que peuple et en tant que nation. Cette mission est l'une des plus urgentes, des plus importantes et des plus historiques dans l'histoire de la solidarité mondiale.
Et pour mener à bien leur mission, ces policiers d'élite ont reçu la meilleure formation possible. C'est en tout cas ce qu'a tenu à rappeler l'un des commandants de cette force multinationale, l'inspecteur général adjoint Nour Gabo.
Ces officiers feront une différence dans la vie de la police haïtienne et dans la vie des communautés haïtiennes. Ils feront la différence et nous rendront fiers une fois déployés. Votre Excellence, nous avons créé pour eux le meilleur kit possible. Ils ont les meilleures chaussures avec lesquelles ils puissent marcher. Ce sont les meilleures que l'on puisse porter, même sur une longue distance. Pour les armures, ils ont une trousse de secours individuelle pour chacun de ces officiers. Je les remercie et leur souhaite bonne chance alors que nous les emmenons à Port-au-Prince.
Ils sont 400 policiers kényans à être partis juste après cette cérémonie. Ils sont maintenant attendus en Haïti où l'on retrouve notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Est-ce qu'on sait ce qui va se passer en Haïti pour marquer leur arrivée ?
Rien n'a été officiellement communiqué à la presse à ce sujet. Bon, les spécialistes nous disent quand même qu'il n'y a pas de protocole spécial prévu pour une telle occasion. Les plus hautes autorités devraient être à l'accueil, tenant compte de l'importance cruciale que revêt la question pour Haïti. Il ne serait pas à écarter que les commandants de l'armée et de la police, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la police présidé par le Premier ministre Gary Conille, fassent peut-être le déplacement à l'aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince.
C'est un aboutissement. Il a fallu des mois et des mois pour en arriver là, donc à cette arrivée qu'on attend encore des policiers kényans en Haïti. Ça a été très long, hein, Godson.
Oui, la mission a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2023. Un feuilleton judiciaire a suivi au Kenya, vous le savez, et le gouvernement de William Ruto n'a obtenu l'autorisation de déploiement que le 1er mars dernier. Il faut se rappeler aussi que la demande de l'ancien gouvernement d'Ariel Henry d'envoi d'une force multinationale en Haïti pour combattre les gangs avait été adressée à l'ONU en octobre 2022, bientôt 2 ans. Entre-temps, la violence des gangs s'est accrue en Haïti, à Port-au-Prince en particulier.
Alors, vous nous parliez de l'accueil qui pourrait être réservé à ces policiers en disant que le Premier ministre pourrait faire le déplacement. Gary Conille a salué hier dans un message sur X la détermination du gouvernement kényan et l'engagement du peuple kényan. Quelles sont les réactions de la population à Port-au-Prince ?
Ouf de soulagement, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Je lis encore « Nos parents ont trop subi depuis l'assassinat de Jovenel Moïse ». C'était en 2021, mais certaines personnes ne cachent pas leur regret que cet effort international ne soit pas consacré à renforcer la police et l'armée en Haïti. C'est tout un débat.
Un débat qui va se poursuivre encore. En attendant, Godson, est-ce qu'on sait quelles seront les missions prioritaires de ces policiers kényans ?
Selon la résolution de l'ONU, ils doivent fournir un soutien opérationnel à la police nationale en Haïti. La mission de ces policiers consistera aussi à sécuriser les sites d'infrastructures critiques et les lieux de transit tels que l'aéroport, les ports et les carrefours clés, selon la résolution encore. Et la force serait autorisée, selon ce document, à adopter des mesures temporaires urgentes à titre exceptionnel pour éviter des pertes de vie humaine et aider la police à maintenir la sécurité publique si nécessaire.
Alors cette mission, elle commence à se déployer sous l'œil attentif des États-Unis qui ont voulu tenir un discours encourageant hier par la voix du porte-parole du secrétariat d'État, Matthew Miller. Écoutez.
This is just the first of several milestones in the process to restore security and prosperity in Haiti.
Ce n'est que la première d'une longue série d'étapes dans le processus de rétablissement de la sécurité et de la prospérité en Haïti. Cette arrivée marque le début d'une mission unique en son genre, demandée par Haïti et autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit d'une entreprise véritablement internationale. Avec l'arrivée du personnel de la mission, nous espérons une amélioration notable de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'aide humanitaire et à l'activité économique de base. Nous saluons le partenariat entre le Conseil présidentiel de transition et le Kenya dans le cadre de cette mission. Nous sommes aux côtés de la communauté internationale et soutenons cet effort historique visant à appuyer la police nationale haïtienne dans sa lutte pour l'avenir d'Haïti.
We stand with the international community in supporting this historic effort to support the Haitian National Police in their fight for Haiti's future.
Les ambitions, on l'entend, sont importantes pour cette force et son statut se précise, Achim Lippold. Vous l'avez lu dans la presse haïtienne du jour.
Oui, c'est allié effectivement, entre autres, dans le Nouvelliste, le journal de Port-au-Prince a eu accès à l'accord sur le statut de la MMAS signé entre les gouvernements kényans et haïtiens. Ce document confère un ensemble de privilèges et d'immunités au personnel de la MMAS, résume le Nouvelliste. Le gouvernement haïtien accepte, par exemple, de fournir gratuitement des installations pour le siège de la force internationale, ainsi que des logements pour ses membres. Les autorités haïtiennes autorisent aussi la MMAS à importer sans frais de douane des équipements, des provisions, des fournitures et des pièces de rechange nécessaires. Et toujours selon le journal haïtien, et ça c'est un point central, Anne, de l'accord, tout le personnel de la force de sécurité, composé notamment de policiers, y compris aussi le personnel recruté localement, bénéficie de l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis dans l'exercice de la mission, une immunité qui continuera même lorsque le personnel ne ferait plus partie de la force internationale.
Et alors donc, que la situation se concrétise, que ce déploiement se concrétise, que les policiers kényans arrivent, l'un des principaux chefs de gang en Haïti change nettement de ton. Le chef de la coalition Vivre Ensemble, Jimmy Cherizier, appelle au dialogue.
Premier ministre Rony, qui pas contribuer dans créer ces pays, qui pas contribuer dans bail zam dans quartier populaire et puis je dis à pacifier pays, ou capable. Mais meilleure façon pour pacifier pays, c'est avec dialogue.
Meilleure façon. Un message de Jimmy Cherizier dans une vidéo dont le quotidien Le Nouvelliste se fait l'écho, Arim.
Oui, exactement. Il propose au gouvernement un dialogue en s'adressant directement au nouveau Premier ministre Garry Conille avec une vidéo publiée le week-end dernier afin de pacifier le pays, écrit le Nouvelliste. Il faudrait, selon Jimmy Cherizier, donc apporter des services publics dans les quartiers populaires. Le chef de gang promet que ces hommes resteront dans leur fief si le gouvernement envoie des signaux montrant qu'il compte faire les choses différemment. Pour l'instant, Anne, le gouvernement n'a pas encore réagi à ce message de Jimmy Cherizier.
Un dialogue avec les groupes armés souhaité donc par l'un des principaux chefs de gang. Et en attendant une position officielle, les défenseurs des droits de l'homme disent depuis des mois leur opposition à toute amnistie. Je vous propose d'écouter sur ce point Marie-Rosie Auguste du Sénat, chargée de programme au RNDDH.
Pour nous, en aucune façon, des criminels de droit commun ne peuvent obtenir amnistie pleine et entière pour des crimes qu'ils ont commis et d'ailleurs qu'ils continuent de commettre encore aujourd'hui où nous parlons. Donc, nous estimons que ces gangs armés ne peuvent faire partie d'aucun processus, encore moins d'un processus politique. Leur place est derrière les barreaux. Ils doivent être jugés et condamnés à des peines, naturellement, qui tiendront compte de leur degré d'implication dans les exactions commises à l'encontre de la population haïtienne. Et nous le disons encore une fois, la population haïtienne, elle réclame justice parce qu'elle a besoin de comprendre pourquoi cela lui est tombé dessus. De 2018 à nos jours, nous, au RNDDH, nous avons dénombré 30 massacres et attaques armées. Donc la population haïtienne a besoin de comprendre. Et ce n'est certainement pas en prenant ces bandits armés et en les mettant dans un processus quel qu'il soit que cette population pourra justement savoir, comprendre ce qui lui était arrivé.
La position du Réseau national de défense des droits humains en Haïti sur le besoin de justice. Et d'ailleurs, on peut lire sur votre site, Godson Pierre, vous êtes toujours en ligne avec nous, un article sur la condamnation hier aux États-Unis d'un ancien chef de gang, Germaine Joly.
Jermaine Joly est condamné à 35 ans de prison pour introduction clandestine d'armes à feu en Haïti en violation des lois américaines et blanchiment de rançon payé pour des otages américains détenus par le gang 400 Marozo, dont Jermaine Joly était bien un chef. Il avait plaidé coupable en janvier dernier. On se rappelle qu'en octobre 2021, le gang 400 Marozo avait enlevé et détenu pendant 62 jours 17 missionnaires, dont 16 Américains et un Canadien, parmi eux 5 enfants.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On peut vous lire sur le site alterpress.org. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le moment, pour le moment sur ces 400 policiers kényans qui sont attendus en Haïti. Premier contingent de la force multinationale qui doit venir soutenir la police haïtienne dans sa guerre contre les gangs.
RFI The World's Voices.
On en parlait tout à l'heure dans le journal. Julian Assange est libre. Le fondateur de Wikileaks, après des années d'exil et de prison à Londres, va pouvoir retrouver son Australie natale. Et nous sommes en direct avec notre correspondant à Washington pour en parler. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Julian Assange, libéré à la faveur d'un accord avec la justice américaine. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on dise un mot de l'issue de ce feuilleton. Une issue qui n'est pas vraiment une surprise en fait.
Non, en avril, le président américain Joe Biden annonçait qu'il considérait l'abandon des charges, notamment à la demande du premier ministre australien Anthony Albanese, qui explique que personne n'a intérêt à faire durer cette affaire hors du commun. Les soutiens de Julian Assange, qui le voient comme l'exemple même des lanceurs d'alerte et un exemple pour tous les journalistes d'investigation, saluent la fin d'un combat de longue haleine. Des politiciens américains se félicitent aussi de ce dénouement. Pas tous. L'ancien vice-président Mike Pence, qui était aux affaires au moment où l'administration Trump a poursuivi Julian Assange, explique que le fondateur de Wikileaks aurait dû être poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Et il n'est pas impossible que le sujet soit évoqué jeudi lors du débat entre Joe Biden et Donald Trump.
Parce que ça fait des années que cette question divise, que la justice américaine réclamait l'extradition de Julian Assange. Et donc, un accord vient d'être trouvé pour mener à sa libération, Guillaume.
Oui, les États-Unis reprochent toujours d'ailleurs à Julian Assange d'avoir obtenu de la personne qui s'appelle désormais Chelsea Manning des documents concernant l'activité de l'armée américaine en Irak et de les avoir ensuite rendus publics, mettant ainsi en danger la sécurité nationale et la vie de soldats américains. Pour cela, et notamment pour violation de la loi sur l'espionnage, il risquait jusqu'à 175 ans de prison. Et selon l'accord passé avec la justice américaine, Julian Assange va plaider coupable d'un seul de ses chefs d'inculpation. Et il va être condamné à 62 mois de prison. C'est exactement le temps qu'il a passé à la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres. La peine sera donc considérée comme déjà purgée.
Et cette audience va se dérouler aux États-Unis, mais très très loin de Washington.
Oui, l'accord doit être validé par un juge fédéral, mais Julian Assange ne veut pas, et c'est son obsession depuis des années, depuis qu'il est emprisonné en fait, il ne veut pas s'approcher du territoire américain continental. La solution qui a été trouvée, c'est qu'il aille plaider dans un territoire éloigné. En l'occurrence, cela va se passer à Saipan, dans les îles Mariannes, demain matin à 9h en heure locale, c'est-à-dire ce soir à 19h de Washington, 1h du matin à Paris. Julian Assange est déjà en route. Il vient d'effectuer une escale à Bangkok, en Thaïlande. Et une fois l'accord validé par le juge, qui peut d'ailleurs refuser de le faire, cela s'est déjà vu, mais c'est très peu probable, il pourra rejoindre son Australie natale.
Et c'est donc la fin d'une saga judiciaire et médiatique aussi.
Oui, la collecte des documents par Wikileaks commence en 2009 et la publication en 2010. Julian Assange est d'abord en Suède, qu'il fuit en 2012 en raison d'accusations d'agression sexuelle et de viol qui seront abandonnées plus tard. Direction le Royaume-Uni, où il se réfugie pendant plusieurs années à l'ambassade d'Équateur à Londres. Inculpé par la justice américaine en 2018, il est expulsé de l'ambassade équatorienne l'année suivante pour avoir violé les termes de son accord d'asile selon les autorités du pays, qui a entre-temps changé de président et donc de politique. Il est immédiatement arrêté par la police britannique et incarcéré pendant 5 ans. Et c'est là qu'il va tout faire pour éviter l'extradition vers les États-Unis, qu'il évite donc avec cet accord qui sera conclu aujourd'hui.
Guillaume Nodin, en direct de Washington. Il est 13h24 en temps universel et on va rester aux États-Unis pour lire la presse avec vous, Harim Lipold. Les médias commencent à se focaliser sur ce premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. On l'évoquait à l'instant avec notre correspondant. Les deux principaux rivaux de l'élection présidentielle de novembre seront ce jeudi sur la chaîne CNN.
Oui, et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, peut-on lire sur le site justement de la chaîne CNN, deux présidents s'affronteront, le sortant et son prédécesseur, ce qui leur permettra d'être jugés sur leurs résultats. On sait que ce duel, la plupart des électeurs auraient préféré l'éviter. Les deux candidats ont déjà ou vont bientôt franchir la barre de 80 ans et ils s'efforcent donc de montrer qu'ils ont les politiques nécessaires pour résoudre les problèmes du pays. Selon CNN, les craintes des électeurs ne sont pas infondées car aucun des deux n'a jusqu'à présent fait preuve d'une stratégie, d'une vision nécessaire pour préparer l'avenir du pays.
Alors, que peut-on attendre de ce débat ? Il y a 4 ans, la confrontation entre Joe Biden et Donald Trump avait viré au pugilat. Une personne a déjà débattu avec les deux, c'est l'ancienne candidate à la présidence Hillary Clinton, et elle partage son expérience dans la presse.
Ouais, j'ai vécu cette pression extrême qui repose sur vous lorsque vous arrivez sur le plateau du débat, écrit Hillary Clinton dans le New York Times. Je sais aussi que c'est pratiquement impossible de vous concentrer sur les faits dès lors que vous êtes confronté à Donald Trump, poursuit l'ex-candidat démocrate, estimant que c'est une perte de temps de réfuter les arguments confus justement de Donald Trump. Mais quel que soit le résultat de ce débat, quel que soit le gagnant, il ne faut pas oublier, écrit Hillary Clinton encore dans le New York Times, que le vrai choix pour les Américains, c'est celui entre le chaos et la compétence, c'est de choisir, dit-elle, entre un criminel condamné qui veut se venger d'avoir perdu l'élection il y a 4 ans et un président dont la politique produit des résultats en faveur de la population. C'est un choix finalement assez simple, conclut Hillary Clinton.
La revue de presse signée Achim Lippold à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, et on vous retrouve, Serge Massot, pour parler de la Guadeloupe qui s'apprête à de nouveaux échouages de sargasses.
Oui, ces algues brunes à l'odeur nauséabonde, les prévisions annoncent un risque fort d'échouement de sargasses pour la Grande Terre et la Basse Terre. Pour les îles du Sud, le risque est moyen dans les prochains jours, mais l'air y reste chargé. Hier, Guadère a mesuré des taux élevés de sulfure d'hydrogène du côté de Capesterre, de Margalante et à Beauséjour, à la Désirade. Conséquence des échouements de la semaine passée. Sébastien Gilles de Guadeloupe La Première.
Selon toute vraisemblance, la côte nord de la Grande Terre devrait recevoir des arrivages d'algues brunes toute la semaine et au moins jusqu'au week-end prochain. Arrivages alimentés par les nombreux filaments observés au nord de la Désirade et qui sont actuellement dans un flux dominant nord-est-sud-ouest. La Désirade, elle, ne devrait subir durant les 4 prochains jours que les échouements modérés dus aux petits filaments actuellement observés à l'est de l'île. Autre source de nuisance à venir, les nombreux radeaux et filaments qui sont actuellement entre Marie-Galante et la Guadeloupe dite continentale. Ils sont actuellement en transit vers l'ouest via des méandres et source d'arrivage modéré sur la côte sud de la Grande Terre et nettement plus fréquent sur la côte au vent de la Basse Terre, surtout près du petit cul de sac marin. En revanche, la couverture nuageuse de ces derniers jours rend les prévisions complexes pour le reste de l'archipel. Seule certitude, on n'attend pas d'amélioration durant les 15 prochains jours.
En Martinique, la situation reste tendue. Au CHU de la Trinité, le service des urgences pourrait fermer pendant une partie des grandes vacances. Les syndicats estiment que la qualité des soins et les conditions de travail continuent de se dégrader. Écoutez Jean-Pierre Jean-Louis, le représentant du syndicat FO Santé. Il est au micro de Jean-Pierre Dabreux de Martinique La Première.
Il ne faut même pas parler de repousser les congés. Nous avons un personnel qui est fatigué, usé. Qui est usé parce que l'hôpital est anxiogène. Nous venons travailler avec la boule au ventre parce que nous n'avons pas les conditions pour travailler convenablement au CHU. Manque de matériel, manque d'organisation, le CHU n'a pas d'argent, donc les fournisseurs ne jouent pas le jeu, je les comprends parce qu'ils ont un personnel aussi à payer, et qui en partie c'est le personnel, c'est les patients. C'est le patient qui est en bout de chaîne.
Et puis les électeurs de la Guadeloupe et de Martinique sont appelés aux urnes samedi et non dimanche pour le premier tour des élections législatives. Un scrutin surprise organisé dans l'urgence et certaines mairies cherchent encore des volontaires pour tenir les bureaux de vote. Exemple à Rivière-Salée en Martinique avec le maire André Le Sieur.
Si au niveau de l'administration, nous sommes outillés, mais au niveau de la composition des bureaux, les assesseurs, tout, il faut aller chercher des bonnes volontés citoyennes. Alors, il y en a, mais il faut connaître le terrain et aller solliciter ces gens-là pour savoir s'ils veulent bien, parce que c'est un geste citoyen, il n'y a pas de rémunération, rien. Sacrifier une journée, deux peut-être, puisque s'il y a 2 tours, il y en aura 2, se mettre à la disposition de la démocratie.
Le maire de Rivière-Salée, au micro de Christine Cupid de Martinique, la première. Fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi se termine. Émission réalisée aujourd'hui par Vincent Bito. Merci à tous. On se retrouve demain 11h, temps universel. Et d'ici là, vous le savez, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site RFI.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. Vous restez à l'écoute. Dans quelques secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou et son invitée, l'auteur, compositrice, interprète Clara Isée et écrivaine puisqu'elle publie un premier recueil de poésie qui s'appelle Vivante. Très bonne journée à tous.
RFI, la sélection du mois.
Jean-Claude Nemrot et Kélia Paulin.
Si on se casse le dos, on fait de l'or avec nos sanglots.
RFI Musique.